Passer la main et la parole à Victor, qui doit pouvoir donc activer également sa caméra. Victor Guay, qui est historien économiste. Ah, la caméra, oui, ça y est, c'est bien, qui est historien économiste. Il est depuis 2018 enseignant-chercheur à l'École d'économie de Toulouse, ainsi qu'à l'Institut d'études avancées de Toulouse. Et pour aller donc, comment dire, pour présenter son intervention, c'est une intervention qui est, enfin, c'est une proposition spontanée de Victor suite à notre appel dans le cadre du webinaire, qui a spontanément répondu à notre appel pour venir présenter son expérience. À ce titre, et c'est peut-être aussi un élément à prendre en compte dans l'usage, l'écriture, la publication de data paper dans le cadre de nos métiers d'accompagnement de la recherche. C'est le seul retour et c'est la seule proposition que nous avons eue. Est-ce que c'est un signe ou pas? En tout cas, on aura peut-être l'occasion, dans d'autres circonstances, d'avoir également d'autres retours complémentaires. Victor, je te laisse la parole. On ne t'entend pas. Non. Est-ce que les tests tout à l'heure étaient positifs? Ça avait bien marché? Oui. Non, là, le micro est coupé effectivement.
Et maintenant?
Et maintenant, ça marche. Parfait.
C'est bien.
Voilà.
Merci. Merci
Voilà
Stéphane.
pour une petite présentation d'une dizaine de minutes, pardon.
Oui, voilà, je vais essayer d'être assez rapide et proposer mon retour d'expérience sur la production d'un data paper que j'ai terminé le mois dernier. Alors, si je peux. Ouais, ça fonctionne. Donc voilà un petit peu de quoi je vais parler. Je vais rapidement présenter le contenu de ce projet, et puis après je vais passer plus sur les aspects méthodologiques en parlant de pourquoi j'ai écrit ce data paper, le processus de rédaction, comment j'ai mis essayé de mettre les données en conformité avec les principes FAIR, les questions de valorisation et de dissémination, et aussi je vais discuter, enfin, ouvrir des questions sur le rôle des fonctions. Là, je dis fonction support, mais je pense qu'il serait plus approprié de parler de fonction d'accompagnement. Voilà. Donc, rapidement, pour discuter un petit peu du contenu. Bon, j'appelle ça un écosystème, mais c'est un grand mot juste pour dire que, pour communiquer l'idée que je pense que le data paper et les données en elles-mêmes vont ensemble et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, rapidement, le projet, en fait, il s'agit d'un système d'information géographique pour la France de la Troisième République. Donc, TRFGIS, c'est juste un acronyme en anglais qui veut dire Third Republic Geographic Information System. Et en gros, c'est une base de données qui propose des nomenclatures et shapefiles annuelles de 1870 à 1940 pour un ensemble de circonscriptions administratives. Donc, je propose des circonscriptions administratives dites générales, donc départements, cantons, communes. Là, je tiens à préciser que pour les communes, je propose uniquement des nomenclatures et pas des shapefiles, pour différentes raisons. Les shapefiles, c'est plutôt l'objet de l'ANR commune de Isabelle Segui, Thomas Thévenin et Alexis Vidine en ce moment. Voilà. Mais je propose aussi nomenclature et shapefile annuel pour les circonscriptions administratives dites spéciales, donc les régions et subdivisions de régions militaires, les cours d'appel et cours de première instance, donc les circonscriptions judiciaires, les circonscriptions pénitentiaires, électorales, les inspections du travail et aussi les diocèses sur cette période. Donc au total, il s'agit de 16 bases de données, 901 nomenclatures et 830 shapefiles. Mais aussi, ça c'est important, je mets à disposition l'ensemble du matériel de reproduction, donc ça inclut le code source en Stata et en Python, l'ensemble des données sources utilisées pour la constitution de cette base de données, et l'ensemble des archives consultées, surtout par Gallica, donc on a presque 200 archives disponibles. Voilà. Et tout est accessible sur le Dataverse Harvard, ici. Et donc, ça va pas sans le data paper en lui-même. Donc, le data paper, il s'appelle Mapping the Third Republic. Et dans le contenu, il s'agit, donc, comme Clémentine Cottineau l'a dit avant dans la précédente intervention, il s'agit plus que d'un simple description du codebook ou des métadonnées, c'est vraiment, il contient l'ensemble, tous les détails de la constitution de la base de données. Donc, il y a des éléments de contextualisation, une description détaillée de la méthodologie technique et aussi historique, donc je décris précisément toutes ces institutions historiques, toutes ces circonscriptions. Bien évidemment, je décris aussi les fichiers de données en détail, les métadonnées, etc. Je donne aussi des conseils d'utilisation et quelques usages potentiels. Voilà. Et donc, le document de travail est disponible sur HANA en ce moment. Alors, pourquoi est-ce que j'avais décidé d'écrire ce data paper? Bon, d'abord, c'est une réponse, je pense, à la crise de reproductibilité en sciences sociales. Je pense qu'il y a un vrai problème qui se pose en ce moment, et même si en sciences sociales, dans certaines disciplines, on utilise plus des méthodes inductives que hypothético-déductives, je pense qu'il y a quand même un gros problème ici. Voilà. Et en particulier sur la recherche empirique par rapport à la France de la Troisième République, je me suis rendu compte, parce que je travaille un peu sur ces sujets, sur cette période, qu'il y avait très peu de chefs-là disponibles. Certains étaient disponibles pour les cantons, parfois arrondissements et départements, mais la plupart ne suivaient pas les critères FAIR, en fait. Voilà. Peut-être une exception, c'est les chefs-là du Larin, ils en ont deux, en 1925 et 1886, je crois. Mais le plus important, je pense, c'est la question du cadre commun et des nomenclatures, parce qu'une fois, je pense que la plupart, quand quelqu'un pense à un système d'information géographique, les gens pensent surtout à des chefs-là, mais pour moi, en tant que qui fait de l'analyse empirique, je pense que le plus important, c'est des nomenclatures qui sont interopérables, et clairement définies et bien documentées. Et ça, en fait, il n'y avait pas encore de cadre commun sur cette période. Donc ça a généré énormément de pertes de temps pour tous les chercheurs que je connais qui travaillent sur cette période pour générer eux-mêmes leur cadre d'analyse. Peu, voire pas d'interopérabilité entre les différents programmes de recherche et aussi peu de crédibilité potentiellement quand il n'y a pas de documentation sous-jacente de la constitution de la base de données. Donc l'idée en fait de ce projet, en fait, c'est d'établir un cadre commun documenté et reproductible ici. C'est aussi une réponse, je pense, au manque de valorisation du travail sur les données. Et là, c'est un peu un pari que j'ai fait parce qu'on a très très peu d'incitation en tant que chercheur de mener ce genre de projet par rapport à l'évaluation de la recherche de façon interne pour les promotions parce que c'est pas du tout un travail valorisé dans les comités d'évaluation. Aussi, même par rapport aux chercheurs externes, c'est relativement peu valorisé. Moi, je suis économiste de formation et en économie, c'est extrêmement peu valorisé. La plupart des articles d'économie, même d'économie historique, quoique là, c'est un petit peu différent, décrivent leurs données soit dans une annexe, soit dans une toute petite partie de l'article. Donc, voilà. Et c'est un peu un pari, et je pense que c'est important de créer ce genre de bien public et qu'il y aura, j'espère, des externalités positives. Voilà. En termes de rédaction, je vais pas revenir sur l'ensemble des choses, mais comme je disais, c'est pas simplement un codebook descriptif. Voilà. Et c'est très important, je pense, surtout en sciences sociales, de décrire la méthodologie de construction. Bon, les données sources, évidemment, mais surtout les choix de catégorisation. Dans mon cas, ça s'est un petit peu moins posé, mais je pense à beaucoup de bases de données historiques qui reposent sur des sources, un ensemble de sources où il faut vraiment interpréter les sources. Décrire les choix de catégorisation sont extrêmement importants pour les utilisateurs et les lecteurs. Et aussi valoriser, enfin, montrer les limites et la valeur par rapport à l'état de l'art. Donc, certaines bases de données sont constituées dans un but. Il faut bien être clair là-dessus, quelles sont les limites de ces bases. Par exemple, pour moi, pour les utilisateurs qui veulent utiliser les shape files, je pense que les shape files sont utiles pour une perspective plus régionale que extrêmement locale. Par exemple, si on veut regarder l'évolution de Paris, par exemple, vaut mieux mon outil, je pense, serait pas approprié pour vraiment si on veut vraiment regarder Paris. Là, c'est plus Alpage ou d'autres projets qui seraient plus appropriés. Voilà. Et aussi, j'ai passé beaucoup de temps à décrire les éléments techniques et les potentiels de réutilisation. Ici. Alors, évidemment, il y a plusieurs modèles possibles et c'est assez compliqué parce que ça dépend des disciplines, du type de lecteur qu'on vise. Moi, j'ai suivi le modèle de la revue Scientific Data, même si donc elle s'adresse quasiment exclusivement aux sciences dures. Je pense que le modèle et le cadre est assez bien défini. Voilà. Ils ont un certain nombre de rubriques qui sont assez appropriées là-dessus. Et quelque chose d'important, je pense qu'il faut être conscient, c'est pas forcément la construction elle-même, mais la conception d'une base de données et du data paper, elles doivent être simultanées. Donc, quand on constitue une base de données, en fait, il faut toujours un petit peu, je pense, réfléchir en amont à comment est-ce qu'on va la présenter dans le data paper et vice versa. Quand on écrit le data paper, il faut réfléchir à la constitution de la base de données. Et ça, bon, évidemment, c'est un travail conséquent qui n'est pas toujours valorisé pour nous, les chercheurs, mais je pense qu'il va l'être un peu plus à l'avenir. Voilà, donc les données faire en pratique. Donc j'essaie vraiment de respecter ces principes faire. Là, c'est un certain nombre d'éléments, mais c'est juste pour montrer un petit peu l'éventail de choses en tant que chercheur auxquelles il faut penser. Et c'est des choses auxquelles on n'est pas vraiment formé en fait à la base. Donc, là où les fonctions d'accompagnance peuvent être potentiellement assez importantes. Donc, et ça va dépendre en fait le respect de ces données faire. Ça va dépendre en grande partie, je vais y revenir. Par rapport au, ça va dépendre du dépôt de données qu'on choisit, parce que le dépôt de données a un rôle aussi là-dessus. Donc, dans ce projet de TRFIS, c'est documenté par des métadonnées assez riches qui sont disponibles sur différents formats. Les mots-clés utilisés, vocabulaire contrôlé, donc moi j'ai utilisé le vocabulaire du Library of Congress. Évidemment, chaque fichier de données a son propre DOI. Et les formats utilisés pour les... Donc, il y a différents types de données, mais j'ai essayé au maximum d'utiliser des formats ouverts. CVS, TXT, je donne les bases de données sous différents formats. Je donne sur format STATA, DTA, qui a de très bonnes... qui gère très très bien les métadonnées, je trouve. Et là, donc, je dis format pérenne, mais évidemment, ça va dépendre des dépôts de données. Donc, si on le met sur un acteur, par exemple, ça va être le CINES qui va gérer, je crois, qui va gérer la pérennité des formats. Et le Dataverse gère lui-même la pérennité. En termes d'interopérabilité, là, j'ai vraiment tenu à ce que les données soient compatibles avec des standards répandus pour que ce soit interopérable avec d'autres programmes de recherche, et en particulier le code officiel géographique de l'INSEE et le GeoFLA de l'IGN. Donc, j'ai essayé de suivre leur propre méthodologie pour un certain nombre de choses, en particulier la constitution des pseudo-cantons et des pseudo-circonscriptions. Un certain nombre de circonscriptions sont définies, passent des coupes des communes, et ça crée un certain nombre de problèmes, et le GeoFLA par exemple gère ça de la même façon que l'INSEE pour ses COG en créant des pseudo-cantons qui ne correspondent pas aux cantons effectifs. Et ça, c'est en cours, je vais essayer de rendre ça interopérable avec les données historiques disponibles sur le CRH. Si certains ont déjà utilisé les données du CRH, de la Statistique Générale de France, ils ont très bien l'expérience que les unités géographiques ne sont pas du tout compatibles entre elles, mais c'est pas leur faute, c'est simplement que il y a eu dans le processus de numérisation, digitalisation, c'est exactement ce qui apparaissait sur la source qui a été inscrit. Voilà. Donc aussi, j'ai fait bien attention à utiliser des licences appropriées, donc CC BY pour le texte, aussi la licence MIT pour le code, et le Dataverse donne un versionnage assez précis. Donc, tout ça pour dire, il y a beaucoup de choses à penser, et de nombreux choix, en fait, sont à faire en amont, avant la constitution de la base de données. Sinon, il faut y revenir et tout changer, donc c'est un peu compliqué. En termes de dissémination et valorisation, je pense que c'est très, très important. Ça peut paraître annexe, mais en fait, comme l'objectif d'un data paper et d'une base de données est d'être réutilisé, je pense que c'est important d'y réfléchir aussi. Donc, encore une fois, le data paper, il est indissociable des données, mais pour juste parler de la dissémination du data paper, je pense que c'est important d'utiliser un dépôt central et pérenne un petit peu. Donc, évidemment, j'ai utilisé HAL sous licence CC BY, mais aussi pour la dissémination du document de travail. Donc, en sciences sociales, c'est très courant en fait de diffuser le document de travail avant la publication pour recevoir des commentaires et valoriser sa recherche. Donc, évidemment, là, j'ai utilisé des séries institutionnelles de mes affiliations, des séries disciplinaires MPRA, c'est en économie. Les séries de l'Association française de biométrie. Là, c'est en cours pour l'HES, la European Historical Economics Society. Bon, après, j'ai aussi mis ça sur des séries génériques. Bon, là, je suis un petit peu plus... Je pense peut-être quitter SSRN et Academia, mais ça, c'est une autre histoire. Et en fait, l'objectif, c'est aussi d'être moissonné par les différents agrégateurs comme Google Scholar, Rebec Ideas, ça, c'est pour l'économie, Isidore, et Orchid, qui maintenant, là, depuis quelques jours, permet le lien avec HAL directement. Voilà. Et la question se pose ensuite, donc la deuxième étape, c'est quelle revue, parce que c'est très important pour valoriser le travail et que ce travail soit revu par les pairs, en fait. Et là, il faut se poser la question du format et du lectorat approprié, quelle portée on souhaite. Donc, il y a plusieurs choix. Il y a Scientific Data, donc qui eux demandent de soumettre les données en même temps que le papier. Et aussi dans leur comité, il y a toujours au moins une personne qui est spécialiste du management de données, donc ça c'est assez important. Et dans mon cas, il y a plusieurs autres vues appropriées. J'aurais pu rajouter CyberGeo, mais je pense que la plus appropriée, c'est Historical Methods en termes de lectorat. Après, se pose la question de la... Est-ce que ces revues ne sont pas toutes open access Research Data, celui-là est open access, mais il est assez nouveau, avec une portée relativement faible. Historical Methods a une portée très grande et touche le public, je pense, qui sera le plus intéressé par ce projet. Mais c'est pas en open access. Donc, est-ce que HAL peut être un substitut? C'est une question qui se pose. Voilà. Et il y a aussi Histoire à mesure potentiellement. Par rapport à la dissémination des données, donc là, le choix du dépôt de données a été extrêmement. Enfin, j'ai bien réfléchi, ça a été assez important. Il faut bien réfléchir à ses besoins, aux usages qui vont être faits des données et différents critères. Donc, évidemment, quand on choisit son dépôt, il faut que ce soit, je pense qu'il faut qu'il respecte les principes FAIR. Mais il y a d'autres questions qui se posent, en particulier l'espace de stockage, parce qu'il y a certaines limites qui sont posées. Dans mon cas, donc, c'est pas tant la taille, mais c'est plutôt la complexité de la structure de la base qui a potentiellement posé des problèmes, parce qu'il y a 13 000 fichiers en tout, et c'est 6 gigas. Donc 6 gigas, c'est pas énorme, mais c'est plutôt la structure qui est un peu complexe. Et ça, ça pose problème, lorsque le dépôt de données ne gère pas correctement, enfin, ne propose pas vraiment une ergonomie efficace pour le producteur, mais aussi pour l'utilisateur. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi Harvard Dataverse, parce que l'ergonomie pour le producteur et l'utilisateur, en fait, elle est très bien faite lorsqu'on a une structure complexe de fichiers. Voilà. Mais Nakala, Figshare ou Zenodo, en fait, on aurait pu faire l'affaire. Mais Zenodo, je connais un peu moins, mais je pense que Dataverse est assez efficace pour ça. Aussi, il faut se poser la question de la visibilité. Donc, Dataverse a une bonne visibilité à l'international. Et aussi, alors malheureusement, moi, je n'ai pas la chance d'avoir accès à un dépôt de données interne. Donc, INRAE utilise un Dataverse. Donc, ça peut offrir, lorsqu'on a un dépôt de données interne, ça offre beaucoup plus de flexibilité pour l'utilisation et pour le producteur, mais malheureusement, je n'avais pas accès à ça encore. Et ensuite, pour la dissémination, ça aussi c'est important pour toucher un certain nombre de publics. Je me suis posé la question, quels sont les publics qui vont utiliser les données? Et là, donc j'ai mis les données avec une description en français sur DataGov. Donc ça, c'est un bon portail pour les utilisateurs français. Et je suis en cours de publication sur Progedo, qui aussi, je pense, peut toucher le public français plus largement. Et ensuite, ça c'est plus disciplinaire, mais comme il y a un aspect cartographie, je pense ça va être intéressant d'intégrer un certain nombre de documents, enfin de fichiers directement dans CARTIS et Magritte. Donc ça, c'est en cours. Et potentiellement créer des packages StataWAR pour une utilisation directe par les utilisateurs. Voilà. Donc enfin, dernier point, j'aimerais un petit peu discuter du rôle des fonctions support. Donc c'est plutôt des fonctions d'accompagnement. Je pense que c'est plus approprié comme terme. Donc là, comme je disais, comme vous avez pu le voir, en tant que chercheur, il y a beaucoup de choses en fait, à penser en amont. Et le gros problème, en fait, c'est que ça, pour l'instant, enfin, moi, je suis sorti de doctorat il y a 2 ans et jamais j'avais entendu parler de ça. Jamais. Donc, en fait, les fonctions d'accompagnement sont extrêmement importantes en termes de formation continue. Donc, moi, j'ai suivi un certain nombre de formations par leur fils à Toulouse et la MSH à Toulouse aussi a été très importante pour communiquer un certain nombre d'informations. Et aussi, il y a toutes les plateformes qui sont très utiles. Bon, malheureusement, l'économie est extrêmement en retard, pour le droit aussi, en fait, sur ces sujets. Et moi, je me suis surtout rattaché à... Enfin, j'ai surtout parlé avec des accompagnants à UT2, le Toulouse Mirail. Mais ce que je me suis rendu compte, il faut vraiment une démarche active, proactive des deux parties. Et je trouve que les personnels accompagnants sont assez proactifs, hein, même très proactifs sur ces sujets. C'est plutôt les chercheurs, parce que les structures d'incitation ne sont pas du tout faites actuellement pour leur donner une motivation, je veux dire, pour attaquer ces sujets-là. Et enfin, donc, la question peut se poser, je pense que ça pourrait être discuté après, c'est quid du travail conjoint des chercheurs et des fonctions d'accompagnants. Ça c'est une question ouverte parce qu'il y a plusieurs choses à penser. Quand on écrit un data paper, moi je pense que c'est un article scientifique. C'est vraiment un article scientifique. Il y a des problématiques vraiment disciplinaires. à la fois en termes d'usage et de diffusion, voilà, de contenu. Et donc ça, c'est une question. Et aussi, et c'est quelque chose aussi un peu plus assez important aussi, c'est les structures d'incitation et les responsabilités. Et la question, c'est est-ce qu'elles sont compatibles? Voilà, est-ce que la réputation de chercheur, enfin, tous les processus de promotion et d'incitation sont assez différents pour les deux parties. Donc ça peut poser question si on veut se mettre à faire un travail conjoint en fait sur ces sujets. Voilà. Donc ça c'est j'espère que ça a été informatif, un retour d'expérience assez court et voici les différentes informations.
Merci Victor.
Merci pour votre présentation, ou plutôt retour d'expérience très intéressant et surtout les commentaires à propos de soutien, justement du rôle des personnels de soutien, des personnels d'accompagnement. Effectivement, nous sommes dans le même justement état d'esprit par rapport à ces activités-là. Et donc par rapport aux questions, alors d'abord éclaircissant un aspect, où est-ce que vous avez publié votre data paper? Est-ce qu'il a été fait uniquement déposé sur HAL ou quelle revue avez-vous choisi?
Moi, je l'ai déposé il y a près d'un mois à Historical Methods. Donc, il est encore en cours
d'évaluation.
Ouais, d'évaluation, ça devrait être encore un ou deux mois, je pense.
Très bien. Question de Jérémy. Pourquoi vous avez choisi du shapefile? Pourquoi pas des GeoJSON ou un autre format non binaire?
Deux raisons, je pense, principalement, c'est dans ma décision. Tout le monde utilise des shapefiles dans la discipline en termes de recherche. Je ne sais pas comment on utilise du code pour générer des shapefiles GeoJSON. Donc, moi, je suis pour générer des shapefiles. Et a priori, c'est un format. Il me semble que c'est ouvert. Enfin, tout le monde peut utiliser.
Il semble que c'est devenu standard, en tout cas, donc ouvert. Effectivement, en suivant les échanges des collègues, oui, on a cette indication-là.
D'accord.
On m'a dit non, pas standard. Dans Wikipédia, c'est marqué comme standard. Donc, à vérifier, en tout cas.
Ouais.
Et ensuite, question de Magali, question sur la granularité. Vous associez un fichier, un DOI, mais un fichier contient quel type de données? Comment faites-vous le découpage?
Oui, alors ça, c'est une question, il y a des enjeux en fait qui vont plus loin sur la citabilité des données. Et donc là, on n'a pas vraiment le choix. En fait. C'est un peu complexe. Donc moi, il y a un database avec 16 bases de données. Chaque base de données, donc la base de données département a un DOI. À l'intérieur même de cette base de données, il y a eu, quelques centaines de fichiers. Donc, il y aura le shapefile pour 1885. Le shapefile 1885 aura eu un DOI, mais ça, c'est assigné par le dépôt de données. Donc, je crois que c'est le dépôt de données en fait, qui gère ce genre de questions. Et je crois que, alors là, je me trompe peut-être, mais il me semble que chaque fichier déposé a lui-même un DOI. Est-ce que la structure même du DOI, j'ai pas regardé, il faudrait que je regarde en détail, est-ce que un fichier qui appartient à une base de données a un DOI secondaire, je veux dire, qui a une extension en fait à partir du DOI de la base de données principale, ça je devrais le vérifier. Ouais. Mais je crois qu'on n'a pas vraiment la main là-dessus, ça attribue automatiquement.
Bien, merci. Stéphane, je crois qu'on va arrêter là peut-être, puisqu'on a encore la synthèse de Joachim.
Voilà, le temps file. Il y a beaucoup de questions, ça génère beaucoup d'interrogations et c'est l'objectif.
Merci aussi. Victor.
Merci.